Jacques Folleroux, bonjour.
Bonjour.
Dès la première phrase de votre livre, vous écrivez « La Corse semble s'enfoncer inexorablement sous le poids du pouvoir mafieux, mortifère et prédateur. » Une vision bien sombre de l'île de beauté, non?
Oui, mais vraiment un constat tiré des faits, tiré d'une observation longue qui remonte à maintenant à près de 20 ans. Et malheureusement aussi le fruit d'un aveuglement un peu collectif, un aveuglement d'abord de l'État, qui n'a toujours pas vraiment identifié, selon moi, la nature exacte de cette violence sociale qui s'est abattue sur une société, un aveuglement aussi un peu de l'opinion française, pour qui les affaires de voyous sont des affaires un peu voilà de marginaux, de folklore, et puis aussi j'ai envie de dire un traitement peut-être un peu fasciné, un traitement de la criminalité à la fois cinématographique, littéraire et aussi médiatique, qui reste quand même très 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 mythifié, très fasciné par le voyou qui ne serait qu'un marginal, qui finalement aurait une espèce de petite dimension noble, alors qu'en réalité et surtout à l'aune justement de l'observation très précise dans au cœur même du fonctionnement de ce système mafieux corse, on voit que c'est le régime, c'est un régime totalitaire, ce sont des marginaux qui ont pris d'une certaine manière le pouvoir, que c'est un pouvoir occulte parallèle à celui de l'État, à celui des élus, et qu'il y a une forme un peu d'indifférence générale.
Alors justement, pourquoi dites-vous, pourquoi parlez-vous de mafia? C'est vraiment un mot qui ne sort pas régulièrement.
Non, je ne me paie pas de mots. À aucun moment je n'emploie le mot mafia de façon légère ou artificielle. Ça me semble au contraire essentiel de prononcer, de qualifier le plus précisément possible la nature de cette criminalité organisée, de cette violence organisée qui a pris en otage un territoire, une population, une démocratie, une économie. Et le mot mafia est le mot qui correspond à cela, à la différence de un problème de délinquance, de grande délinquance, de criminalité qui existe partout. Et j'ai même envie de vous dire, les criminels corses existaient avant la mafia corse. La mafia, enfin le crime organisé ne devient mafia que lorsque les voyous justement ne font pas que les voyous. Ils ne font pas que de s'entretuer, de faire du trafic de stupes, ce genre de choses, ou des braquages. C'est quand le voyou tout d'un coup se pique d'avoir un pouvoir d'influence, et le titre d'ailleurs c'est une île sous influence, un pouvoir d'influence sur la société dans laquelle il vit, et de peser sur la désignation finalement des élus, sur la répartition de la richesse. Donc ça veut dire quoi? Les marchés publics, les marchés privés, même au plus petit niveau finalement, dès qu'il y a de la richesse, d'organiser un système de prédation. Et donc la mafia, ce mot-là, il est extrêmement important. Et de bien nommer, c'est en fait bien répondre. Et c'est aussi de prendre en compte finalement le préjudice subi par une collectivité. Parce que ça n'est ni vous ni moi, ni le continent qui souffrons du préjudice subi par la mafia.
Alors, vous écrivez justement dans votre livre que la mafia corse est véritablement née dans les années 80, hein, à peu près, avec le gang de la Brise de Mer et Jean G. Colonna dans le sud de l'île. C'est très récent.
C'est ça. Peut-être que c'est une des explications d'ailleurs pour lesquelles je suis frappé par la méconnaissance, l'inculture du sujet, ou en tout cas l'indifférence. C'est parce que c'est une mafia jeune, à la différence d'autres mafias en Géorgie, évidemment en Italie ou dans d'autres pays. C'est-à-dire que pour moi, justement, le moment où le crime organisé s'installe à demeure sur l'île et commence à construire son emprise sur l'ensemble de la société corse, c'est en effet c'est le début des années 80. C'est le moment de la décentralisation, c'est le moment où la richesse nationale commence enfin à être irrigué vers la Corse, le tourisme commence à naître, voilà. Et c'est au moment où commence à y avoir un peu de richesse sur l'île, où peut-être que les caisses des banques commencent un peu à s'enrichir, en tout cas à grossir, que les voyous qui d'habitude prospéraient à l'extérieur de la Corse, que ce soit dans les colonies à l'époque où elles existaient, ou alors sur le continent, à Marseille, le fameux milieu corso-marseillais, ou à Paris. Et donc à partir du début des années 80, vous avez en effet ces deux pôles d'influence qui pour moi vont structurer la mafia corse. Au sud, il y a en effet derrière l'étendard de Jean-Jacques Colonna, qualifié très officiellement par la justice de parrain de la Corse du Sud, et d'un groupe criminel qui s'appelle la Brise des Mers en Haute-Corse. Et ces gens-là vont structurer, à l'abri, on en parlera peut-être après, à l'abri d'un certain nombre de paravents, ils vont commencer à bâtir cette mafia corse, et ça va durer des années 84-86 jusqu'au milieu des années 2006-2009.
Un livre fouillé sur la Corse, sur le grand banditisme, sur les affaires. Comment la mafia corse s'est-elle aussi intéressée à la politique? Comment rend-elle des services aux élus?
C'est un peu pour moi, j'ai mis 20 ans à pouvoir décrire comment justement la mafia agissait sur le système politique. Parce que c'est tout sauf simple. C'est-à-dire que c'est un système, ça n'a jamais des liens directs, etc. Et moi, je vois apparaître les caïds, les mafieux, les barons de la Brise de Mer, donc la Haute Corse, je les vois apparaître justement dans le système des élections, même professionnelles et ensuite politiques, à partir des années 80, 84, 85, 86, où on voit que d'un coup, et ça c'est basé sur des rapports d'observation de gendarmerie, hein, on les voit faire du porte à porte pour l'élection d'un président des commerçants de Haute-Corse. Ensuite, on les voit soutenir, et là, on parle des piliers, des membres fondateurs, tout d'un coup, soutenir le même homme derrière l'élection à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie. Et tout ça, et chemin faisant, on va voir qu'ils vont faire tomber le puissant clan des radicaux de gauche qui tiennent la Corse depuis, on va dire, quasiment l'après-guerre, qu'ils vont faire élire la droite, à la tête du département de Haute-Corse en 92. Et puis, vous allez voir... Alors, je ne dis pas que ce sont les seuls décideurs. Bien entendu que les gens ont voté. Il y a d'autres forces convergentes qui font l'équation politique corse. Mais je pense qu'il y a il y a suffisamment d'éléments pour dire qu'ils ont pesé de façon décisive et qu'ils ont sans doute fait basculer. Et alors, non seulement ils font tomber les radicaux de gauche, donc le clan qui dirige la Haute-Corse depuis des dizaines d'années, en 92... Mais a priori, de nouveau, le même type d'influence, alors ça se joue, c'est fin comme système, hein, va a priori leur permettre de faire revenir les mêmes radicaux en 98. Donc je pense qu'il y a de quoi, il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire qu'ils font et défont les chefs politiques de l'île au gré de leurs propres intérêts et de leurs propres décisions.
Le rôle de Paris dans tout ça, l'État français ferme-t-il les yeux sur cette mafia, sur ces actions de la mafia ?
Alors c'est pour ça que je pense qu'il y a de quoi être un peu pessimiste, c'est-à-dire que l'État, on va dire la France, les autorités françaises, on voit bien par rapport à la Corse et ce depuis la fin des années 70, la France, elle est surtout captivée, mobilisée, etc. sur les éruptions de violence des nationalistes. Enfin, donc la revendication autonomiste ou nationaliste depuis la fin des années 70. Mais le paradoxe, c'est qu'on est aujourd'hui en 2022, j'ai envie de dire que la France avait craigné de voir une forme d'autonomisation de ce bout de son territoire aux mains des nationalistes. Et en fait, peut-être son aveuglement, après on pourra détailler le terme aveuglement, c'est pas uniforme, a conduit finalement à une autonomisation d'un système mafieux sur son territoire. Ça, c'est un paradoxe.
Quel est le poids et que représentent les anti-mafias en Corse? Vous en parlez dans votre livre.
Oui. Alors, pour moi, c'est un des éléments, comment dire, positifs, me semble-t-il, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue démocratique. C'est qu'en 2019, on a vu émerger deux collectifs anti-mafias. Et de nouveau, c'est tout sauf du folklore, c'est tout sauf du... c'est tout sauf de l'agitation. C'est le fruit d'un processus résurgent, souterrain, qui tout d'un coup a émergé. Et c'est vraiment une expression du corps social. Alors qu'a encore aujourd'hui beaucoup, on est 3 ans après, qu'a encore du mal à trouver sa place dans le débat public, qui n'est pas aidé par les politiques locaux, qui n'est pas aidé par l'État. Mais qui mène son bonhomme de chemin, alors avec des problèmes de structuration, des problèmes de cohérence, d'harmonisation des paroles, etc. Mais c'est, je pense, indubitablement un point important. Et je pense en effet que pour lutter contre le crime organisé, un système mafieux, l'État ne suffit pas, la justice ne suffit pas, la loi française, qui est aujourd'hui assez déficiente, pour lutter contre ce type de phénomène de violence organisée, a grandement besoin à la fois de l'expression du corps social, mais aussi du travail des médias. Et Dieu sait si je peux. Voilà, moi, je suis régulièrement confronté à l'animosité d'un certain nombre de services de l'État qui considèrent qu'on n'a rien à faire là, etc. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que faire reculer une violence comme ça sur un corps social, ça se travaille en amont, ça se travaille sur les consciences, ça se travaille sur les individus. Et donc je pense que puisque le système mafieux justement va bien au-delà du simple crime et du simple délit, c'est une emprise sociale, c'est une emprise sur les esprits, et donc il faut que ce soit une réaction aussi globale, d'ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui le cadre légal n'est pas du tout adapté à la lutte contre un système mafieux.
Votre livre vient d'être publié. Quelles ont été les réactions des politiques et des Corses après la publication de ce livre ?
Il y a eu, pendant la campagne des législatives, quelques réactions. Il y a eu notamment, évidemment, les collectifs anti-mafia qui s'en sont saisis. Ils ont sans doute vu un écho à leur réflexion et à leur action. Ils ont tenté de prendre à partie les élus, les candidats, leur demander ce qu'ils avaient à dire sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Et demander des comptes, finalement, à leurs futurs représentants. Il n'y a pas eu grande, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu de réponse, justement, des candidats. Par ailleurs, le pouvoir politique insulaire, il est entre les mains des nationalistes et des autonomistes. Alors après, il faut distinguer, mais depuis 2015. Donc aujourd'hui, on peut vraiment poser la question de la. Il y a vraiment un droit d'inventaire qui peut s'exercer. Et quand les deux collectifs sont nés, il y a eu l'actuel patron de Lille, politique économique, Gilles Simeoni, s'est exprimé publiquement sur les antennes de France 3. Et il a dit des choses qui me semblaient fortes. C'est-à-dire qu'il a dit oui, il y a un système mafieux en Corse, qui est ancien, qui touche aussi les nationalistes. Et on va s'en saisir et en faire un débat collectif. On est en 2022, ce débat n'a toujours pas eu lieu. Et je pense que quand Gilles Simeoni dit que ce système existe, il sait de quoi il parle, sans doute mieux que moi. Et si ce débat n'a pas encore eu lieu, si peut-être il y a des forces contradictoires, c'est bien que ce pouvoir occulte parallèle existe et pèse encore grandement sur l'avancée de cette société corse.
Jacques Folleroux, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Mafia Corse, une île sous influence, paru aux éditions Robert Laffont.